Donc, bonjour à tous, je m'appelle David Darmon, je suis actuellement chef de clinique à l'université Nice Sophia Antipolis. Je suis aussi médecin généraliste, je suis très heureux de voir qu'il y a autant de médecins généralistes à ce colloque. Et donc j'ai l'honneur de travailler avec Pascal Stassini sur ce projet qui s'intitule SALT, Simulation and Active Learning for Télémédecine. Donc c'est un projet qui nous est cher, qui a une histoire que je vais vous raconter. Ma présentation s'articulera donc autour de cet historique, puis sur le projet, et enfin quels sont les apports que peuvent avoir les Serious Games dans le cadre de ce projet. Alors vous connaissez tous cette pyramide, la pyramide de Dale. Je pense que vous l'avez vue plusieurs fois, c'est un petit peu ce qui fait que peut-être on s'intéresse plus aux Serious Games. C'est une pyramide donc qui explique la différence entre l'apprentissage dit passif, ce qu'on va lire, ce qu'on va entendre, ce qu'on va lire et entendre, et l'apprentissage plutôt actif avec ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous disons, et on se rend compte que rapidement, on retient 90% de ce qu'on fait et de ce qu'on dit versus 10% que de ce qu'on lit uniquement. Donc, c'est pour cela que au niveau de l'apprentissage en médecine, alors je suis issu du département de médecine générale où on a directement pensé qu'on allait laisser tomber les cours magistraux, donc tout ce qui était passif, on le laissait de côté, qu'on était plus sur l'apprentissage par compétence avec de la mise en situation. Et donc une des possibilités qui s'offre à nous, c'est aussi donc la simulation, comme ça a pu être le cas dans notre expérience niçoise que je vais vous expliquer plus tard. Alors, un des domaines d'application sur lequel on s'est intéressé, c'était celui de la télémédecine. Alors, la télémédecine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le professeur Laringue, qui est le président de l'Institut européen de télémédecine, dit que c'est l'utilisation de tous les moyens techniques et de toutes les méthodes qui permettent d'exercer la médecine à distance, et qui a pour finalité d'améliorer la qualité des soins par l'utilisation optimale des moyens techniques et des compétences médicales. Un peu plus tard, il expliquera aussi que c'est un mode de réponse à l'organisation des soins. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problèmes de démographie médicale et que la télémédecine est vécue donc comme une possibilité de répondre à ces défis démographiques. Ce que le professeur Louis Laringue n'a pas forcément abordé dans cette définition-là, c'est que faire de la télémédecine, finalement, ça met en jeu des compétences qui ne sont ni purement médicales, ni purement techniques, mais bien qui sont propres à la télémédecine. Alors, comme je vous le disais, finalement, la télémédecine, c'est une discipline à part entière qui est émergente et qui met donc en jeu de multiples compétences, qu'elles soient techniques, avec tout ce qui est informatique médicale, juridique. Qui est responsable de l'acte de télémédecine, celui qui donne le conseil, celui qui va le faire, où sont les données du patient, qu'en est-il du secret médical? Il faut aussi avoir certaines compétences en matière de communication, parce qu'on ne se comporte pas pareil en face d'un patient, face à face, alors que derrière une webcam ou dans une relation avec trois personnes quand il y a un télé-expert à distance. Et enfin, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de toutes les données issues de la télémédecine. Et là, je parle plus de tout ce qui est e-health et télémonitoring. Vous avez de plus en plus de patients qui, enfin, moi je parle pour moi là, en l'occurrence, parce que mon cabinet est situé à côté de Sophia Antipolis, que certains doivent connaître ici. Et donc j'ai des patients qui débarquent avec des podomètres, avec toute une liste de données concernant leur alimentation, leur activité physique. Et en réalité, au niveau du corps médical, actuellement, on n'est pas préparé à recevoir autant de données. Et surtout, on ne sait pas du tout en fait quoi en faire, hein. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pour notre pratique. Les recommandations ne sont pas du tout basées sur ces données-là, elles sont plus basées sur des données qu'on va acquérir en consultation. Alors, je vous disais qu'à Nice, on était intéressé par ce projet pour deux raisons. La première, c'est qu'on a la chance de disposer d'un des premiers centres de simulation médicale et chirurgicale, donc qui est dirigé par le professeur Fournier, ici présent. Et on a aussi l'expérience des premières consultations en télépsychiatrie, qui avait eu lieu donc à Tende, qui est une contrée reculée des Alpes-Maritimes. Et donc ça fait plus de 10 ans en fait qu'on avait commencé ces expériences de télémédecine. Donc tout naturellement, issu de ces deux problématiques, eh bien, on a décidé donc de créer le projet SALT, qui est donc le premier programme d'enseignement à la télémédecine. Donc ce programme-là, comme l'a dit un des intervenants qui m'a précédé, il s'inclut dans une dynamique d'enseignement globale, où on a forcément une partie théorique malgré tout qu'on est obligé d'apporter de façon peut-être un peu trop textuelle, mais voilà, on n'a pas trop le choix par rapport à ça, pour tout ce qui est aspect réglementaire et logistique. Et on a aussi une partie pratique qui est donc centrée sur l'utilisation de tous les dispositifs de télémédecine. Et on a choisi une méthode pédagogique principale qui est donc la simulation immersive enrichie, avec la création d'un cabinet médical qui se trouve de l'autre côté du parvis à l'IUP, où donc on a créé donc un cabinet de toutes pièces dans lequel se dérouleront en fait des séances de simulation de consultation qui devront utiliser dans leur scénario des dispositifs de télémédecine. Alors, il y a peut-être aussi un versant qu'on sera amené à développer par rapport à l'usage du logiciel médical et qui se rapprochera peut-être plus du serious game comme on l'entend version jeu vidéo à la maison. Mais pour l'instant, on est plus sur la partie simulation. Alors, on a plusieurs problématiques par rapport à cette simulation-là, puisque, évidemment, il va falloir créer les scénarios. Alors, j'étais très content de voir que nos amis toulousains avaient pas mal bossé sur la relation médecin-malade, et je pense que peut-être on en aura besoin de discuter pour voir ce qu'on peut faire par rapport au comportement avec les outils de télémédecine, parce qu'en fait, c'est certainement un facteur stressant. On voit qu'il y a beaucoup en fait d'expériences en télémédecine qui n'aboutissent pas parce que les médecins sont un petit peu débordés par la technique et du coup c'est quelque chose de stressant, ils abandonnent et ils font pas leur en fait ces compétences télémédicales, on va dire. Donc l'idée c'est bien d'identifier les situations cliniques aussi, c'est-à-dire que ce projet a reçu le soutien du Conseil général des Alpes-Maritimes parce qu'on a aussi un problème démographique avec des médecins qui sont reculés, isolés, qui n'en ont pas suffisamment de ressources avec d'autres spécialistes, et donc c'était aussi une manière de rompre l'isolement. Mais il y a eu des dispositifs de télémédecine qui ont été implantés directement dans l'RPI et ils n'ont pas reçu le succès escompté. Et une des conclusions de plusieurs études que d'ailleurs le professeur Sessigny a menées, c'était qu'il y avait un besoin de formation. En fait, ces médecins ne sont pas préparés, et même nos étudiants actuellement à la faculté de médecine ne sont pas du tout sensibilisés à tout ce qui est outils de télémédecine, et c'est finalement sur pression peut-être de l'environnement global et des patients que la mutation va se faire. Donc c'est pour ça qu'à Nice, on a décidé de prendre un petit peu les devants par rapport à ça et de former au travers de SALT les étudiants en formation initiale, mais aussi les médecins en formation continue. Voilà, donc rapidement, donc là je vous ai parlé des scénarios. Et on a prévu plusieurs niveaux d'évaluation dans ce cadre de ce projet pédagogique. Ben, tout d'abord, celle de l'étudiant dans le cadre de sa certification. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de bonnes ou mauvaises réponses par rapport au serious gaming. Là, on est plus dans une approche, en fait, qui est comportementale. Et finalement, peut-être qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais qu'il y a bien à observer les comportements et essayer de voir comment on s'en sort le mieux pour répondre à une problématique d'un patient. Ensuite, on a décidé aussi d'évaluer les scénarios avec une espèce d'évaluation de l'immersion, du rapport défi-récompense, l'analyse des mécanismes qui engendrent l'échec ou la réussite de la consultation. Et enfin, le dernier volet, c'est l'évaluation réelle des dispositifs de télémédecine, parce qu'on en voit fleurir de partout, mais en réalité, on a très peu de mesures d'impact de ces dispositifs de télémédecine. Alors, il est courant dans les présentations de délivrer un message de conclusion, mais en fait, moi, je vais vous délivrer des questions. Je suis très content d'avoir autant d'experts en face de moi et j'aimerais bien que vous nous apportiez un petit peu votre point de vue. Donc, une des problématiques qu'on a, c'est de pouvoir faire converger donc le challenge qu'on peut retrouver dans les serious games avec l'acquisition des compétences. On sait très bien que les gens qui considèrent leur métier comme un jeu sont plus performants. Et comment on pourrait implémenter ça finalement dans la pratique de la télémédecine? Est-ce que d'après vous, il est possible de rejouer une séance une fois qu'on l'a passée? Parce que là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Faut-il préparer ces séances? Et dernière question, parce que nous, au niveau de la littérature, on a rien trouvé, mais peut-être que vous en savez plus que nous. Est-ce qu'il existe des expériences de serious game en télémédecine au sens large? Voilà, je vous remercie pour votre attention.